Nous allons commencer cette rencontre donc avec Jordan Bertrand à ma gauche, qui a écrit un livre qui s'appelle Cette petite île s'appelle Mozambique aux éditions Transboréal. Je vais faire peut-être quelques petites remarques préalables avant de laisser la parole à Jordan, parce que souvent les récits de voyage, il y a plusieurs manières de récits de voyage. Il y a souvent des longs déplacements, des traversées, des errances. Là, ce qui est très particulier dans ce livre, c'est qu'on est sur un lieu minuscule, une petite île de 3 km de long sur 500 mètres de large, donc au Mozambique, en Afrique de l'Est. Et c'est comme un confetti sur lequel Jordan est revenu à de nombreuses reprises, et elle va nous en parler sans doute pourquoi elle est tant revenue sur cette petite île. Je trouve que c'est intéressant aussi pour le public français, parce que souvent en France, on s'intéresse aux anciennes colonies, donc à l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique du Nord. Et finalement, on n'est pas souvent curieux de ce qui se passe ailleurs en Afrique, et notamment là en Afrique de l'Est, puisque c'est l'Afrique lusophone qui a une toute autre histoire, avec aussi de multiples influences africaines, évidemment, mais arabes, indiennes, puis européennes. Enfin, il y a tout un métissage dont Jordan parle, qu'elle évoque dans ce livre et dont elle nous parlera. C'est aussi une toute petite île, mais qui est au cœur d'une très longue histoire, hein, avec des, là pour le coup, du côté des Européens, avec des visiteurs prestigieux comme Vasco de Gama et Luís de Camões, le poète portugais. Et c'est aussi un des lieux symboles de l'esclavagisme et du pouvoir colonial portugais dans cette partie de l'Afrique. Et je crois que ce récit, enfin, il me semble, la lecture pour Jordan, c'est autant une invitation au voyage qu'une façon de donner la parole à ceux qui l'habitent, qui habitent cette île, parce qu'il y a aussi des récits de voyage où l'auteur parle beaucoup de lui. Jordan le fait, mais avec une forme de pudeur et dont elle nous parlera sans doute. Et je crois qu'elle, voilà, elle a voulu surtout donner la parole à ceux qui vivent sur cette île et donc la voir finalement par leur regard, par leurs sensations, par leur histoire. Et voilà. Donc je vais aussi dire quelques mots sur Jordan Bertrand. Elle se refusait à ce que je fasse une longue bibliographie, mais je vais quand même en faire une petite. Donc elle est née à Albi en 1975. Elle est très jeune. Elle a été marquée par un voyage en 92 au Rwanda, donc 2 ans avant le génocide des Tutsis. Elle y était très jeune, à l'âge de 17 ans, si je me souviens bien. Et donc voilà, ça a été, je pense, un événement pour elle, un voyage en tout cas qui l'a marquée, qui a peut-être entraîné des choses par la suite, puisqu'elle a fait ensuite, quelques années plus tard, une maîtrise à Paris en histoire de l'Afrique, et précisément avec un travail sur le Rwanda, mais la période pré-génocidaire, donc entre 92 et 94, qui donnera lieu aussi à une publication, à un livre. Ensuite, elle a travaillé dans les programmes de coopération télévisuelle, et où elle a voyagé dans de nombreux pays africains. Ensuite, elle a vécu 5 ans au Mozambique, où là, elle a commencé à travailler en tant que journaliste pour la radio, puis en presse écrite. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été une dizaine de fois sur cette petite île de Mozambique. Et ensuite, elle est devenue journaliste au sein de l'AFP en 2007. Et elle est depuis 3 ans maintenant, je crois, en poste à Bordeaux, donc au bureau de l'AFP à Bordeaux. Donc je m'arrête là, mais je voulais juste montrer qu'en fait votre intérêt pour l'Afrique, il est pas récent, c'est pas qu'un seul voyage, c'est toute une longue histoire, et je crois que c'est une somme d'expériences, de lectures. Voilà. Et ce livre, c'est un des aboutissements, parce qu'il y a eu 3 autres livres que vous avez écrits, notamment autour des indépendances africaines, et puis vous en préparez un, je crois bien, autour du Cap-Vert, un dictionnaire du Cap-Vert. Donc on va ouvrir la rencontre par une question précisément ouverte. Donc je voulais savoir pourquoi, pour vous, cette île de Mozambique, peut-être revenir sur le nom de l'île de Mozambique et ce lieu, cette histoire. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous y amener un petit peu sur cette petite île de l'Afrique de l'Est?
Alors c'est vrai que la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi avoir écrit sur cette île, cette petite île de Mozambique, l'Afrique est vaste, et j'ai quand même décidé d'écrire tout un livre sur une île minuscule, comme le disait Christophe, qui fait 3 km de long sur 500 mètres de large. Tout simplement parce qu'en fait, j'ai quand même voyagé dans une trentaine de pays africains, et c'est vraiment un des lieux les plus fascinants et les plus envoûtants que j'ai pu découvrir. Fascinant et envoûtant, pourquoi ? D'une part parce que c'est vrai que c'est assez inhabituel d'avoir déjà une île qui a été longtemps capitale d'un pays. Il se trouve que voilà, au Mozambique, l'île de Mozambique a été pendant plusieurs siècles la capitale de ce pays. Donc il faut imaginer un petit confetti de terre, qui n'est pas relié au continent. Il a été, à partir des années 60, un pont relié depuis les années 60 l'île au continent. Mais donc, un petit confetti de terre qui va être, en fait, la capitale de ce pays pendant jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc ça, déjà, quand on rentre dans cette histoire, on se dit « Ah, c'est quand même assez étrange ». Et puis, il y a après la surprise, sorte de, vous savez, il y a des lieux comme ça. Vous y arrivez et vous vous sentez pris dans à la fois plein d'interrogations parce que ce que vous voyez vous fascine, vous interroge. Vous dites, oh là là, mais il y a plein de choses ici. Je comprends qu'il y a une histoire riche, mais je ne l'aperçois pas encore complètement. Donc, il y a la fascination de la première fois, si j'ose dire. Et puis, ce qui, je pense, fait ensuite la saveur et l'importance d'un voyage, ensuite, c'est la rencontre. Et c'est vrai que très rapidement, sur cette île, j'ai eu la chance, parce que j'y ai effectué plusieurs séjours, de rencontrer des gens qui, finalement, étaient héritiers de l'histoire de cette île qui est effectivement, tu l'évoquais un petit peu, Christophe, tout à l'heure, qui est très, très riche. Il faut en fait remonter dès le 9e siècle pour comprendre l'importance de cette île. En fait, c'est une île qui va se trouver sur le chemin que les Arabes vont emprunter dans leur commerce avec l'Afrique. Bien avant l'arrivée des Européens en Afrique, en tout cas sur cette côte de l'Afrique orientale, il va y avoir énormément de commerce entre les Arabes et les Africains, et notamment pour le trafic de l'or. Et tout ça, c'est à l'époque un monde qui est complètement inconnu des Européens. Mais évidemment, le commerce est très florissant tout autour du golfe Persique, le long de la côte orientale de l'Afrique, jusqu'en Inde. Donc les Arabes vont être les premiers à rentrer en contact avec cette île. Il se trouve que à l'époque, les Africains ne l'occupent pas. Ils ne l'occupent pas parce qu'en fait, elle n'a pas d'eau. Donc pour eux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de s'installer sur cette petite île de la côte. Eux, ils sont sur le continent qui leur apporte suffisamment pour vivre et manger. Donc finalement, cette île, ils s'en servent essentiellement comme lieu de refuge. Quand il y a des luttes intestines sur le continent, l'île étant seulement à 3 km du continent, on y accède en pirogue. Donc finalement, c'est là qu'on trouve refuge. Et c'est assez, assez étonnant parce que cette île, dans langue locale, elle ne s'appelle absolument pas l'île de Mozambique, elle s'appelle Umuipiti. Et Umuipiti, dans la langue locale, ça veut dire la cachette. Donc c'est vraiment le vestige dans la langue de ce qu'était cette île, pardon, pour les Africains avant que d'autres peuples y arrivent. Donc, les Africains y vont de temps en temps, mais n'y restent pas, il n'y a pas d'eau. Les Arabes, au contraire, à partir du 9e siècle, vont trouver que c'est un endroit très intéressant pour faire escale, pour réparer leurs bateaux quand ils sont venus de très loin du golfe Persique, pour débarquer les malades. Et ils créent progressivement, ils vont créer dès le 9e siècle un petit comptoir de commerce sur l'île et très vite vont se mélanger avec les Africains. Donc on a une population métissée qui existe dès le 9e siècle arabo-africaine avec l'islam qui arrive, qui s'installe de façon complètement pacifique et une société arabo-africaine qui s'installe à cet endroit. Et enfin, ce ne sera qu'à partir de la fin du 15e siècle que les Européens vont arriver. Et là aussi, quand je me suis intéressée à cette île, comme le disait Christophe, il y a énormément de personnages illustres qui sont passés par là. Mais tout d'un coup, on rentre dans cette histoire qu'on a souvent dont on a entendu parler à l'école, Vasco de Gama, Magellan, etc. Là, tout d'un coup, j'ai touché du doigt un petit peu ces grandes routes maritimes, ces grandes épopées maritimes, notamment celles des Portugais, puisque l'île du Mozambique va être un des points de passage de Vasco de Gama quand il va faire le tour de l'Afrique, du continent, pour ouvrir la route de l'Inde en 1498. Et il y a d'ailleurs, sur le continent tout près de l'île, il y a un puits qu'on appelle le puits de Vasco de Gama, où les gens continuent à aller chercher de l'eau, à se laver. C'est vraiment parce que c'est un puits permanent. Et on raconte que c'est là que Vasco de Gama est venu s'approvisionner en eau quand il est passé sur cette côte orientale avant de traverser l'océan pour aller jusqu'aux Indes. La première chose qu'on voit quand on arrive, c'est alors De fait, la côte orientale de l'Afrique a toujours, enfin, est métissée. C'est cette histoire, finalement, l'île de Mozambique reflète cette histoire de la côte orientale qui a toujours été en contact, non pas d'abord avec l'Europe, mais avec le Golfe Persique et avec l'Inde. Alors, effectivement, c'est une des choses qui est frappante. C'est on arrive à l'île du Mozambique et les visages, finalement, ça commence par là, parlent de ces métissages. On voit des gens qui ont la peau noire, mais qui ont plutôt des traits arabes. Alors, j'ai pas parlé de l'influence indienne aussi, puisque une fois que les Européens seront arrivés, les Portugais, une fois qu'ils arrivent jusqu'en Inde, vont amener avec eux des Indiens qui vont aussi s'installer sur l'île. Donc on va avoir finalement quatre continents qui vont édifier un petit peu cette île. Donc voilà, les visages, par exemple, c'est la première chose qu'on constate et qui nous frappe, qui raconte cette histoire. Ça se voit aussi dans la façon dont les femmes portent leurs pagnes. C'est des pagnes extrêmement colorées qui se portent absolument pas de la même façon qu'en Afrique de l'Ouest, où on a plutôt des pagnes qui sont cousues, on fait des vêtements avec les pagnes, les fameux wax. Là, c'est quelque chose de complètement différent, où la façon de nouer le pagne est un mélange un petit peu d'influence arabe et d'influence indienne. Le sari n'est pas très loin dans la façon dont on noue les pagnes au Mozambique. L'architecture alors, qui est très particulière à l'île du Mozambique, parce que d'une part, il y a une architecture, il y a une partie de la ville qui est une ville qu'on appelle la ville de pierre, qui est la ville portugaise, et qui est donc très par certains aspects, on se croit à Lisbonne. C'est la première image qu'on a. On se dit, tiens, on est vraiment sur une île où les Portugais sont passés. C'est les mêmes types de maisons qu'à Lisbonne, le même type de couleurs. L'autre partie de l'île est plutôt une ville africaine, avec des cases traditionnelles couvertes de palmes, fabriquées en torchis. Mais pareil, dès qu'on approfondit un tout petit peu, très vite, on se rend compte que le métissage est passé aussi dans l'architecture. On va avoir effectivement des façades qui ressemblent à des façades portugaises. On va avoir des toits plats qui vont en fait être les citernes qui ont été amenées par l'influence arabe. Comment récupérer de l'eau dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau? Et ça, les Arabes, à l'époque, étaient les meilleurs constructeurs, savaient le faire. Donc, des maisons portugaises avec des citernes arabes. Et à l'intérieur des maisons, on va avoir des patios qui ressemblent beaucoup aux patios indiens qu'on trouve à Goa ou sur toute la côte sud de l'Inde. Donc finalement, ce métissage, il est vraiment palpable dès qu'on arrive. Et évidemment, en tant que journaliste d'abord, et puis ensuite, quand on réfléchit à toute cette matière historique et littéraire qu'on peut y trouver, c'est déjà une matière qui donne envie d'aller plus loin. Juste une dernière chose, puisqu'on avait parlé du nom, justement, Mozambique. Il se trouve que donc le nom lui-même, ce nom de Mozambique qui a été attribué ensuite au pays, l'histoire de ce nom, justement, démarre à l'île du Mozambique. Je vous ai dit, quand Vasco de Gama arrive, en fait, en 1498, Il tombe sur ce comptoir arabo-africain. D'ailleurs, ils sont très paisiblement installés sur ce comptoir depuis plusieurs siècles. Et puis, il faut quand même imaginer que 1498, ils voient arriver trois caravelles. Il faut s'imaginer que les caravelles, c'était minuscule, hein, c'était pas des gros, gros bateaux. Ils voient arriver trois caravelles à l'horizon. Moi, je me suis toujours demandé ce qu'ils avaient pu penser. Enfin, c'est vraiment, à l'époque, la rencontre des peuples, c'est quand même quelque chose de particulier. Et l'histoire raconte que la première chose qu'ils ont pensé, c'est que ils avaient connaissance de l'existence de musulmans comme eux, mais blancs. Et en fait, c'est référence aux Turcs. Donc, ils voient arriver ces blancs sur leur caravelle. Ils sont d'abord persuadés que ce sont des Turcs. Donc, ils les accueillent plutôt bien, des musulmans comme eux. Et puis finalement, au bout de quelques jours, un ou deux jours, il se rend compte qu'il y a un petit peu erreur sur la personne. C'est pas du tout des Turcs, mais ce sont il découvre que ce sont donc des chrétiens envoyés par le roi du Portugal et qu'a priori, ils leur veulent pas forcément que du bien. Donc la situation va un petit peu s'envenimer. Et le sultan local, donc un certain Moussa, va vouloir prendre au piège Vasco de Gama, finalement qui va réussir à se sortir de cette situation un peu périlleuse parce qu'il est armé. Donc l'armement justement des Européens va lui permettre de s'en sortir et de continuer sa route. Mais ce qui va rester dans l'histoire de cette rencontre, c'est qu'effectivement donc le bey, le sultan local qui s'appelle Moussa, en turc, le bey, ça se dit Elbik. Donc Moussa El Bey, Moussa El Bik. Et quand Vasco de Gama va rentrer au Portugal, il va évidemment raconter tout son voyage. Et il dira à cet endroit, sur cette île, c'est l'île de Moussa Elbik. Et Moussa Elbik va devenir Mozambique. Et l'île va prendre le nom de Mozambique. C'est ça. La ville en elle-même, la ville qui va se construire dès le XVIe siècle, qui va être construite par les Portugais, va prendre le nom de Mozambique. Et sur les plus vieilles cartes d'Afrique qui sont à Lisbonne, il y a déjà marqué Mozambique à partir de 1500 et quelques. On a déjà ce nom de Mozambique qui apparaît. Et ensuite, le nom va être donné à l'ensemble du pays. Mais c'est vrai que c'est par cette rencontre improbable que ce nom va surgir. Ce qui est surprenant, c'est de voir que les gens ont aussi complètement intégré ce métissage. Et je fais le portrait du gardien du temple hindou, puisque les Indiens sont arrivés, une fois que les Portugais étaient installés, les Indiens sont arrivés pour faire du commerce, et de nombreuses familles se sont installées et se sont mélangées. Voilà, donc ce chapitre s'intitule « Fleurs indiennes ». On s'arrange toujours avec Dieu, surtout quand il faut survivre, seul ou ensemble. Sur l'île de Mozambique, Dieu est compréhensif. Il cohabite avec lui-même, change de nom et de visage à chaque angle de rue. Il est Allah derrière les murs de la grande mosquée qui laisse déborder ses chants sur l'eau luisante de la baie. À quelques pas, il est Jésus, derrière la façade blanche de Nossa Senhora da Saúde. Il est Allah, plus loin, au cœur du Makuti, chéri dans les discrètes mosquées de femmes d'où jaillissent des prières aiguës, écloses dans la transparence de foulards colorés. Sur la côte au vent, il est Allah dans la mosquée basse qui borde le cimetière musulman, Jésus dans l'église Santo Antonio au portail de bois définitivement clos. Tout au bout de l'île, Jésus encore, gardien des mouillages dans la chapelle de la forteresse, Allah dans les écoles coraniques annoncées par les rangées de sandalettes qui dessinent chaque matin les variantes d'une invitation à entrer. Il est Jésus, célébré dans l'église de la Miséricorde. Il est hindou près du marché central, divinité multiple, vénérée entre les murs cinabres du temple à l'ombre des cocotiers géants d'un jardin délicieux. Cela m'a toujours rendue heureuse. Dans ce pan de ciel minuscule, les croix, les croissants et les ornements en sanskrit s'adossent aux mêmes couleurs changeantes de l'air. Certainement est-ce cette bienveillance qui me pousse ce jour-là à franchir avec confiance le porche arrondi du temple hindou. Il n'y a personne à l'entrée et le silence qui règne dans l'enceinte éloigne de moi la rumeur incessante de l'île. Une cour paisible s'ouvre sur un immense figuier du Brésil. Un Mozambicain d'une cinquantaine d'années s'approche et m'accueille d'un sourire. Sous sa casquette de toile, ses yeux globuleux semblent un peu là. « Bonjour, je m'appelle Augusto », me dit-il. J'ai à peine le temps de le saluer qu'il sort de sa poche un trousseau de clés. « Vous voulez visiter le temple ?» J'accepte sans hésiter, reconnaissante.
Le fait que vous y reveniez effectivement pendant ces 5 ans au Mozambique, vous voyagez dans différentes parties du Mozambique et puis de l'Afrique de l'Est. Et puis là, vous revenez. Donc d'abord, il y a une démarche curiosité, puis des tentatives journalistiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a, parce qu'il y a une teinte mélancolique aussi, évidemment, sur cette île, parce qu'il y a toute cette histoire qui est palpable et qu'on voit, les restes, les palais des Katis, l'île qui était capitale, qui ne l'est plus, enfin, qui est mise à l'écart par Maputo, par le pouvoir central, et qui est symbole du pouvoir colonial. Donc, à un moment donné, on a aussi volontairement laissé de côté. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes saisi physiquement par quelque chose, parce que l'île, elle est comme un corps, et vous la décrivez vraiment comme ça aussi. C'est-à-dire, elle est petite, effectivement, et on sent bien que bon, c'est assez labyrinthique, donc il y a vraiment cette image de veines, de boyaux, et puis il y a l'air, il y a entouré par la mer, comme ça. Est-ce que vous avez eu cette appréhension comme ça, très physique finalement de l'île, et est-ce que c'est parce que vous alternez les portraits, les rencontres, et aussi des passages que vous dites plus impressionnistes, mais qui sont d'une autre manière de décrire un lieu. Donc, est-ce qu'il y a eu cette perception-là qui est venue progressivement au fil des voyages ?
Je pense que c'est venu assez vite parce que c'est un très beau lieu. On est dans l'océan Indien, donc déjà il y a la beauté de la couleur de la mer, il y a la lumière qui est souvent magnifique. Il y a, c'est vrai, tous ces palais des Katis. Alors c'est pas toujours évident de dire que c'est beau quand c'est en ruine, mais aussi oui, si, c'est aussi joli quand c'est en ruine, parce qu'il y a cette beauté un peu nostalgique des ruines. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a un autre élément très fort qui est que finalement, ce qui m'a aussi séduite et complètement emportée, c'est que on est dans on est dans une sorte de cité fantôme, parce que comme vous le disiez, il y a y a une sorte de mélancolie, de nostalgie, parce que Lille n'est plus capitale, et puis elle a été longtemps délaissée, et puis la guerre civile est passée par là, donc ce n'est plus l'éclatante île de Mozambique comme elle a été pendant des siècles. Donc oui, il y a cette nostalgie. C'est donc, par certains côtés, une cité fantôme, et en même temps, c'est une cité surpeuplée, parce qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui habitent sur cette île, qui la font vivre au quotidien. Il y a les pêcheurs qui partent le matin. Chaque matin, il y a des centaines de pêcheurs qui partent ramener le poisson qui va servir à nourrir l'île. Il y a les femmes qui sont au marché. Il y a les enfants qui vont à l'école. C'est une vraie cité insulaire. Et c'est à la fois ce décor et la vie qui palpite dans cette île qui m'a effectivement qui m'a emporté, qui m'a donné envie d'en savoir plus. Et puis, d'une certaine façon, en rencontrant certaines personnes, de rentrer dans leur vie, dans leur histoire, dans leur quartier. Et puis parce que il s'est trouvé que chaque fois que très souvent, je rencontrais des gens qui reflétaient la grande diversité de cette île, parce qu'ils étaient, par l'histoire de leur famille. Et ça aussi, c'était très étonnant. On a un peu l'image souvent uniforme de l'Afrique, un continent qui est très peu ouvert aux influences extérieures, qui est resté fermé. Et cette île est le contre-exemple parfait. Ça a été vraiment un lieu de passage pendant des siècles. Il y a eu énormément de bateaux portugais, européens qui sont arrêtés. Il y a eu la période de la traite de l'esclavage. On le disait, les Indiens qui sont passés. Donc finalement, j'avais l'impression parfois, je tirais un fil. Quand je rencontrais une personne, je tirais un fil et je ne savais pas où ça allait m'amener, sur quel continent ça allait m'amener. Et c'est comme ça que je rencontre un chef d'une confrérie soufie. Qui lui, dont le père est originaire je vais en parler tout à l'heure, le père est originaire des Comores, qui est arrivé par naufrage sur cette île du Mozambique. Je vais rencontrer le fils de l'avant-dernier consul de France, donc qui est un métis franco-mozambicain. Son père était un Marseillais qui était venu s'installer là à l'époque où l'île était encore prospère et c'était un port de commerce important. Je vais rencontrer des femmes, Makua, c'est le peuple qui vit dans cette région, qui vont m'entraîner avec elles dans des cérémonies d'initiation féminine. Donc là, on est vraiment au cœur de l'Afrique, dans ce qu'elle a conservé de très fort culturellement, malgré la période coloniale. Donc finalement, c'est ça qui était le plus étonnant pour moi, c'est que chaque rencontre était un voyage qui m'amenait bien au-delà de cette île.
Comme je disais, il y a cette perception physique de l'île. Dès que vous en sortez en barque avec les pêcheurs, ça se passe mal, hein. Mais ils sont gentils avec vous. Donc il y a la construction du récit par touches successives, par des portraits, donc par le regard des habitants. À ce moment-là, en fait, quand vous faites tous ces voyages, vous n'avez pas l'idée d'un livre, vous n'avez pas l'idée d'article, donc vous accumulez des choses comme ça au fur et à mesure et vous revenez. Parce qu'il y a toujours un moment important dans un voyage, c'est la question « qu'est-ce que je fais là ?» Bruce Chatwin en a fait le titre d'un livre. Donc vous, en l'occurrence, est-ce que c'est une question qui s'est posée sur cette île de Mozambique, et il y a un petit chapitre là-dessus, quel élément de réponse, là vous en avez déjà donné quelques-uns, un peu extérieur et tout, mais peut-être un peu plus intérieur, quel élément de réponse vous avez trouvé finalement?
Alors, c'est vrai que, par rapport à ma démarche journalistique, j'avais l'impression que j'ai fait quelques reportages sur l'île de Mozambique pour la radio ou en presse écrite, mais très vite, une fois que j'avais un peu épuisé les sources qui pouvaient me commander, les médias qui pouvaient me commander un reportage, en fait, je me rendais compte que cette île racontait beaucoup plus que ce que je pouvais mettre dans une page double ou dans un reportage même d'une douzaine de minutes à la radio. Il y avait vraiment cette impression d'une richesse de rencontres et d'histoires à raconter qui me tenait un peu à cœur. Donc ça m'a certainement à un moment inconsciemment encouragé à revenir parce que je sentais que des histoires, il y en avait beaucoup, qu'elles étaient passionnantes, donc ça donnait l'envie de revenir. Et puis je pense que il faudrait interroger d'autres personnes qui sont allées sur cette île, mais il y a un effet très très particulier, c'est que parfois l'impression d'être un peu dans un... Je ne sais pas si c'est l'effet insulaire. Je ne sais pas si c'est l'effet justement de, ce, de cette multiplicité de, d'influences extérieures. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils sont dans une ancienne capitale, ils le savent, et en même temps, ce n'est plus du tout capitale. Il faut prendre l'avion pour, depuis Maputo. Il faut prendre l'avion. C'est 2 heures d'avion. Ensuite, on arrive à la grande ville de la province. Ensuite, il faut prendre un taxi collectif. Il y a 180 kilomètres. À un moment, le taxi collectif vous laisse à un carrefour. Il faut en prendre un autre. Enfin, ce n'est vraiment pas aisé d'y aller. Et en même temps, chaque fois qu'on arrive sur cette île, on a une sorte d'impression de... pas forcément de décadence, mais en même temps, en tout cas, ils savent qu'ils ont été une ancienne capitale. Et que donc, il y a des comportements qui sont des comportements d'urbain, mais complètement au bout du monde. Et ça, ça crée des situations parfois aussi un peu cocasses. Donc j'avais souvent l'impression d'être un petit peu dans un film. Et c'est vrai que j'aimais bien aller sur cette île parce que les rencontres étaient faciles. J'étais pas dans la grande ville ou dans la grande ville... on rencontre les gens, mais pas aussi facilement dans la rue comme ça, où on est en Afrique, où les gens sont dans l'interaction avec vous, veulent savoir d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites là. Alors on m'a raconté après coup, au cours d'un séjour par exemple, j'étais restée dans une pension tenue par une dame de Lille, et au bout de 3 jours, elle me dit, tu sais comment ils t'appellent dans la rue? Je dis, bah non, celle qui pose des questions. Donc voilà, il y avait cette facilité, pas forcément de rentrer après dans l'intimité des gens, mais en tout cas cette facilité d'attraper des petites choses qui me donnaient envie d'aller plus loin. Je me rends compte que toutes ces rencontres que j'ai pu faire, c'est la grande force de l'Afrique, vraiment, et je pense que ça, c'est absolument pas typique de l'île du Mozambique, je l'ai ressenti évidemment bien souvent et ailleurs, c'est cette grande force de l'Afrique que je trouve qui vous fait passer si facilement du statut d'étranger à celui d'invité. Très vite, on pose des questions, on rentre chez les gens, on est accueilli, et puis finalement, très vite, ça se passe sans transition. Tout d'un coup, vous faites partie de la famille. Même parfois, je me dis, les gens sont presque plus, se comportent avec vous parfois même mieux que le ferait votre propre famille. Donc c'est ça, passer du statut d'étrangère à invité. Pour moi, c'est vraiment ce constat que si j'ai pu raconter autant d'histoires, pénétrer autant d'intérieurs, d'échanges, que j'ai eu autant d'échanges avec les gens, c'est parce qu'il y a cette capacité, en tout cas, d'accueil qui est formidable.
Du coup, par rapport à une démarche journalistique, ou même si on vous surnomme celle qui pose les questions, est-ce que ça veut dire que dans ces temps-là, vous parlez aussi de vous? Enfin, cet échange-là, est-ce que c'est aussi de la conversation? Vous parlez aussi de vous, de votre vie, de ce qui vous arrive? Est-ce que l'échange se situe aussi à ce niveau-là?
J'irai, il n'est peut-être pas formalisé dans la parole, mais en tout cas, et ça aussi, je pense qu'on peut le dire d'une bonne partie du continent... En Afrique, là, il y a la relation sociale et on est tout de suite en interaction. Les gens vous regardent, la façon dont ils vous regardent, ils vous posent des questions, ils regardent comment vous êtes habillé. C'est pas des questions forcément formulées, mais en tout cas, il y a une interaction sur la curiosité se partage des deux côtés. Et à l'île du Mozambique, oui, on me regardait évidemment. À certains moments, j'étais la seule européenne et on me regardait, on me posait des questions. C'est en permanence un jeu comme ça de je te regarde, tu me regardes, qu'est-ce que tu as dans ton sac, aujourd'hui tu t'es acheté un pagne, j'ai vu quel pagne tu t'es acheté. Enfin, c'est pas formulé, hein, c'est vraiment dans le regard. Et après, ça permet d'entrer dans la relation plus approfondie.
Et là, dans ce que vous dites, on sent bien toute la démarche documentaire et d'écriture documentaire, donc du carnet de voyage. Et en même temps, moi, je trouve qu'il y a deux passages qui sont remarquables. L'un est imaginaire et l'autre, vous franchissez un interdit, puisque vous dites ce que vous ne devez pas dire. Donc, le premier, c'est justement au moment de l'indépendance. Et donc, c'est l'entrée du futur président, Samora Machel, qui rentre sur cette île symbole, encore une fois, du pouvoir colonial et du passé esclavagiste. Et là, en fait, vous dites, bon, là, il n'y a pas de source. En fait, on sait qu'il est rentré, qu'il a visité l'île, qu'il a tourné, qu'il a tout visité. Mais en fait, il n'y a aucune trace. Et donc là, vous avez un moment où vous imaginez, en fait, et, ce qui s'est passé dans son esprit. Et c'est un très beau passage, je trouve, de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette entrée de Samora Machel sur l'île?
Alors, en fait, il y a peut-être juste, j'ai eu une source, si j'ose dire. C'est-à-dire que sur l'île du Mozambique, il y a un ancien palais, l'ancien palais des gouverneurs, qui a été transformé en musée de la période coloniale. Et en fait, quand je l'ai visité, le gardien, le guide, qui est un vieux monsieur, racontait toujours une petite anecdote que j'avais retenue, qui m'avait marquée, puisque donc il racontait comment, il en avait été pratiquement témoin, donc il avait encore des étoiles dans les yeux, et quand il en parlait, il disait voilà, le président Samora Machel, il est venu à l'époque, tous les responsables pouvaient dormir dans ce palais, c'était là où les gouverneurs portugais dormaient. Ensuite, quand ça a été la fin de la période coloniale, les ministres de l'outre-mer venaient dormir là. Donc quand il y a eu l'indépendance, on a dit à Samora Machel, donc le nouveau président, c'était la période de transition, en tout cas le vainqueur de l'indépendance, on lui a dit venez dormir au palais des gouverneurs à l'île du Mozambique. Et le gardien racontait toujours que Samora Machel dort dans la plus grande chambre, la chambre royale en fait. Et il avait un garde du corps qui s'était installé dans le couloir et qui s'était assoupi. Il était assis, j'imagine, le garde du corps un peu costaud, qui s'était assis sur une toute petite chaise. Et c'est vrai que ce palais des gouverneurs du Mozambique est très riche en mobilier, justement, venant de l'Inde, mobilier de Goa, en ébène, extrêmement finement sculpté. Il y a vraiment une beauté de tout le mobilier qui est extraordinaire. Donc, il nous montrait effectivement quelques petits bancs vraiment très, très finement sculpté. Et il y a encore, et on peut le voir aujourd'hui, cette petite chaise toute fine, etc., dont l'assise a été cassée par la sentinelle de Samora Machel. Et en fait, il racontait toujours cette anecdote pour dire, à ce moment-là, Samora Machel s'est dit, si jamais on continue à occuper ce palais comme l'ont fait les gouverneurs, les ministres, etc., dans 10 ans, il n'y a plus rien, parce qu'on va tout casser sans faire attention, juste pas parce qu'on veut casser, mais le manque d'attention. Donc, je vais interdire l'accès à ce palais pour y dormir. En revanche, on en fait un musée parce qu'il faut voir ce qu'a été la période coloniale dans ce pays. Et il faut que le peuple mozambicain sache ce qu'a été cette période, ces 500 ans de domination portugaise. Donc je suis partie de cette anecdote qu'il a racontée pour effectivement parler de l'arrivée de Samora Machel dans cette île, mais surtout de pouvoir parler un petit peu de ce personnage, parce que pareil, comme j'aime bien la phrase d'Henning Mankell, le fameux écrivain suédois qui a passé une partie de sa vie en Afrique, au Mozambique notamment, qui dit toujours on sait de quoi les Africains meurent, on ne sait jamais comment ils vivent. On sait comment ils meurent, on ne sait jamais comment ils vivent. Et c'est pareil, quand on parle de l'Afrique, on parle de tous les autocrates et on parle très rarement de quelques héros qu'il y a eu, qui ont pu lutter pour l'indépendance ou grands intellectuels. Ça ne fait pas forcément la une des livres d'histoire ou des journaux. Donc ça m'intéressait, via cette anecdote aussi, de parler d'un héros de l'indépendance, parce qu'il s'est trouvé qu'en particulier dans les colonies, les anciennes colonies portugaises, l'indépendance a été gagnée de haute lutte, elle a été gagnée après une guerre coloniale en Angola, en Guinée-Bissau, au Mozambique. Et il y a eu des héros qui ont lutté pour cette indépendance. Donc ça m'intéressait aussi, via cette petite anecdote, l'île de Mozambique, ce qu'elle représentait en termes de symbole colonial, et ces groupes de guérillos indépendantistes, d'évoquer aussi une figure emblématique africaine.
Non, mais c'est un passage que j'ai trouvé justement assez, assez lyrique et qui est aussi différent d'autres temps d'écriture du livre. Et puis, il y a un autre passage où là, il n'y a que vous qui pouviez l'écrire, puisque vous êtes une femme. Et c'est une cérémonie de femmes, donc les hommes sont interdits d'entrer. Et donc, c'est une cérémonie d'initiation sexuelle qui, évidemment, a sa part de drôlerie, de caricature et de profondeur aussi. Et là, ce qui est étonnant, c'est que les femmes, justement, n'en parlent pas. Enfin, l'idée, c'est que ça ne se raconte pas, ça ne se dit pas, ça se vit pour les jeunes filles quand il s'agit justement de passer à l'âge adulte. Bon, vous, on vous invite, vous assistez et puis vous le racontez. Donc voilà, vous avez franchi l'interdit, donc sans dommage. Et est-ce que vous pouvez Mais je sais pas, est-ce que vous êtes interrogé là-dessus sur le fait de raconter ou pas? C'est quelque chose qui est un secret ouais, entre femmes de Lille. Et ensuite, nous dire un petit peu, bon, du coup, comme vous l'avez raconté, nous dire quelques mots de cette cérémonie.
Bah, évidemment, je me suis interrogée, puisque quand on m'a invitée, on ne m'a pas forcément dit ça se dit pas, mais la logeuse chez qui j'étais, il s'est trouvé qu'on était dans la rue au même moment quand on m'a dit, mais si tu veux venir à une cérémonie d'initiation féminine, c'est maintenant. Donc on y est allés toutes les deux au début, puis ça s'est duré sur plusieurs jours. Et quand on en a reparlé ensemble, donc mozambicaine, elle me disait « Oui, mais tu sais, ce genre de choses, là, elles t'ont invité, mais franchement, moi, quand je l'ai fait... » Alors elle ne venait pas de Lille, elle me disait « Moi, on le fait vraiment en secret, et puis on ne dit rien. Je suis vraiment étonnée qu'elle t'ait invitée. » Elle était un petit peu... Donc évidemment, je savais qu'elle m'avait prévenue. Elle m'avait dit... C'est effectivement dans la tradition, normalement, les femmes... en fait, ce sont les femmes qui ont vécu cette initiation féminine ne le racontent pas, parce qu'il faut que les jeunes filles qui vont la vivre au moment juste un peu avant leur mariage le découvrent. Et puis en fait, c'est parce que c'est le monde des adultes, donc on raconte pas aux enfants ce qui se passe voilà dans ces cérémonies, puisque c'est une période de transition, de passage de l'enfance à l'âge adulte. Donc oui, bien sûr, je me suis posé la question. Mais là, de la même façon, c'était un peu la même démarche que tout à l'heure quand j'évoquais la figure de Samora Machel. C'est de montrer, c'est ça. On ne sait jamais comment les Africains meurent, pas comment ils vivent. Et là, c'est des choses très importantes dans la vie, notamment d'une jeune fille à l'île du Mozambique, ce passage de la période de l'enfance à l'âge adulte via un certain nombre de démonstrations de ce qu'est la vie en couple, la vie sexuelle, la vie en société pour une jeune fille après, une fois qu'elle est mariée, etc. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est en m'adressant à un public européen, d'expliquer que la société se sent très responsable de ce qui se passe de ces enfants et d'un point de vue communautaire, et c'est ça qui était intéressant à raconter. Il y a eu d'autres expériences très intéressantes au Mozambique que j'ai vécues, mais qui n'avaient pas de lien direct avec l'île du Mozambique, donc j'en ai pas parlé. Mais par exemple, la réintégration des enfants soldats après la période de la guerre civile dans ce pays a été exemplaire, parce que justement la communauté s'est elle-même a pris en charge le passage, d'une certaine façon, en même temps de cérémonie de purification et de réinstallation de ces enfants soldats qui avaient tué parfois leurs parents, des membres de leur famille, qui avaient été vraiment extrêmement barbares, la réintégration dans la communauté de ces enfants. Donc c'était pour montrer l'importance du je dirais presque du cercle, comment on met ces jeunes filles au milieu du cercle et elles sont entourées, et on les fait passer collectivement de la période de l'enfance à l'âge adulte. Et moi, je me retrouve d'une certaine façon dans ce cercle, et elles me le font sentir aussi. Je sens autour de moi toutes ces femmes. Il y avait une centaine de femmes. Elles étaient toutes en plus avec leurs pagnes colorés, donc c'était magnifique. Ça parlait, ça chantait de partout. C'était extrêmement vivant. Et alors moi, je raconte justement que je ne peux. C'est le dernier jour de la cérémonie, et autant j'ai pu commettre un impair le premier jour parce que j'étais habillée en européenne, et que finalement, on m'a regardé d'un œil un peu bizarre. Donc le dernier jour, j'y vais avec un pagne, et surtout, j'essaie de me cacher un peu. Je ne veux surtout pas déranger. Mais voilà, je suis au milieu des autres, et je participe à cette cérémonie que j'ai vraiment sentie comme un moment très collectif.
Et alors, sur une île comme ça, où vous revenez comme ça une dizaine de fois, qu'est-ce qui fait que vous n'y restez pas? Parce que là, vous êtes de passage, vous revenez au même endroit, mais qu'est-ce qui fait que vous n'y restez pas? Et vous rencontrez un Antoine, un Français, qui lui est resté, qui a eu tout un parcours dans l'humanitaire au Mozambique, qui a vécu la grande époque post-indépendance et guerrière au Mozambique, qui lui est resté, était fasciné par lui, il est resté. Et c'est vrai que c'est une rencontre qui est assez amère, parce que c'est un visage un petit peu sombre de l'île, en tout cas pour un Européen, pour un Français qui choisit d'y rester, de s'investir complètement. Donc vous, est-ce que la question s'est posée à un moment donné? Je suppose, ça aussi, ça fait partie du voyage, hein, quand on est dans un endroit, est-ce qu'on pourrait rester ou pas? Donc qu'est-ce qui fait que non?
C'est vrai que je crois qu'on se quand on voyage comme ça, on se pose souvent la question, est-ce que je serais capable de vivre là? Est-ce que je pourrais vivre là? Est-ce que j'aimerais vivre là? Est-ce que... Alors après, c'est vrai que peut-être que je savais déjà, avant d'arriver à l'île du Mozambique, que le mythe des îles est vraiment un mythe. C'est-à-dire que rester sur une île déserte ou pas longtemps, ça peut être un moment de bonheur au début. Et puis après, on est sur une île, il y a un contour. Et justement, quand on voyage, on a envie d'aller au-delà de ce contour-là. Donc, non, la question s'est peut-être pas directement posée comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que en revanche, quand j'étais à Maputo, j'avais régulièrement envie ou besoin, je ne sais pas, non, mais en tout cas envie et d'y retourner parce que le lieu est unique. C'est vraiment ça qui m'a frappée. Alors oui, après, il y a évidemment, c'est une réalité. C'est pas toujours simple de s'installer à l'étranger. Et ce personnage, à la fois, je pense que il est devenu amer pour plein de raisons, mais il est aussi devenu amer parce qu'il était venu faire la révolution. Le Mozambique a connu une révolution. Au moment de l'indépendance, ça a été un gouvernement socialiste qui a voulu changer la vie, changer les choses. Né en 75, on a mis les Portugais dehors. On se dit qu'on peut, il suffit de se retrousser les manches et puis tout va, on va faire progresser le pays, ce qui a été le cas un petit peu au début. Puis après la guerre civile s'est déclenchée dans un contexte en plus d'apartheid en Afrique du Sud. Mais il n'a pas été le seul. Il y a eu énormément d'Européens qui, après 75 jusqu'aux années 80, ont décidé d'aller faire la révolution au Mozambique. Je pense qu'il y a dans la salle des gens de cette génération qui connaissent un peu cette période. Voilà, on était prêts à partir loin et on entendait les discours de Samora Machel à Luta Continua et on partait. On partait au Mozambique, on partait au Nicaragua avec les Sandinistes, on partait. C'est ces périodes très, très particulières. Donc je pense qu'il est autant amer d'avoir finalement d'être sur une île où, au bout d'un moment, une île, ça tape un peu sur le système, je pense. Mais aussi parce que c'est la fin des illusions.
J'ai une dernière remarque, et peut-être pour finir en finissant par un extrait de votre texte, une lecture, parce que la grande différence aussi quand on ne fait pas que passer mais qu'on revient, c'est qu'on fait avec le temps et donc avec les deuils, avec des gens qui disparaissent, que vous avez connus, que vous avez rencontrés, puis qui ne sont plus là. Donc peut-être qu'on peut finir cette rencontre avec une lecture.
Oui, alors c'est vrai que c'est un personnage que... Alors je dis personnage, hein, c'est vraiment ça, parce que les gens me demandent aussi souvent... Qu'est-ce qui fait qu'on décide de s'attacher à une personne, à la vie d'une personne, à raconter ce qu'elle est ou ce qu'elle fait, pourquoi l'une plutôt que l'autre ? C'est vrai que c'est une sorte d'intuition. Et puis, mais c'est vrai qu'à l'île du Mozambique, ça m'est arrivé plusieurs fois où d'emblée, je me disais, mais ça ne peut être qu'un personnage. Dans le sens où, là je raconte, c'est le récit qui est consacré à un monsieur qui avait 95 ans, qui était un chef de confrérie soufi, donc un cheikh musulman. Et quand je suis arrivée sur l'île la deuxième ou troisième fois, on m'a dit, mais il faut absolument que tu rencontres Cheikh Amour. Alors déjà, on peut dire « cher amour » ou « shake amour » ou au Mozambique, on dit « chez amour ». Bref, en tout cas, voilà. Donc déjà, quelqu'un, voilà, « shake amour », vous dites « c'est déjà un personnage ». D'emblée, je me dis « ah, là, il y a quelque chose ». Et puis effectivement, en plus, il se trouve que le personnage est à la hauteur, finalement, de son nom. Et je l'ai rencontré souvent, on a beaucoup parlé, il m'a beaucoup éclairé sur, justement, les confréries soufis à l'île du Mozambique. Et puis c'était quelqu'un avec beaucoup d'humour. Donc je vous livre un petit peu... Alors, voilà, il s'est trouvé qu'il est décédé un jour où j'étais sur l'île. Je suis arrivée, il était déjà un petit peu malade et j'étais restée une quinzaine de jours. Et à la fin de la quinzaine de jours, il est décédé. Et je fais référence au tout début à un jeune homme à Fige qui, d'une certaine façon, prendra sa suite et dont je fais le portrait également. Et ce chapitre s'intitule « Collègue ». À Fige, a-t-il consigné l'événement dans le journal de son aïeul ? Certainement. Même s'il ne l'a pas fait, je sais que ce jour restera à jamais gravé dans son cœur. Il gardera la sensation du poids des larmes retenues dans le coin de ses yeux lorsqu'il a suivi le long cercueil couvert du tissu de velours noir imprimé d'or qui transportait la dépouille de Cheikh Abdourahmane Amour. Cheikh Amour est mort. Le Cheikh le plus vieux, le plus respecté de l'île, est décédé la nuit dernière à l'âge de 94 ans. Par dizaines, les hommes se sont rassemblés dans la rue et devant les escaliers qui conduisent à sa demeure dans le Makouti. Les femmes se sont serrées sur des nattes devant la maison et dans les ruelles adjacentes, inondant l'espace des centaines de couleurs de leurs pagnes et de leurs voiles d'apparat. L'île de Mozambique est en deuil. La mer n'amène pas toujours à destination. Elle conduit parfois seulement à son destin. Cette réflexion avait surgi dans mon esprit lorsque j'avais écouté le vieux Cheikh me raconter l'histoire de sa famille. Dès mon premier séjour dans l'île, j'étais partie à la recherche de cet homme que tout le monde évoquait avec respect et dont le nom sonnait si doux à mon oreille. « Cheikh Amour », avais-je écrit sur mon carnet avant de découvrir peu après que ce nom si commun dans la région Swahili s'écrivait sans O. Qui cherchait Cheikh Amour était sûr de le trouver chaque matin de la semaine à son bureau, près de la capitainerie, m'avait-on renseigné. C'est ainsi que je fis sa connaissance, au rez-de-chaussée d'une haute maison de commerce abandonnée. Son corps, long et maigre, était courbé sur sa chaise, et je fus surpris par sa stature lorsqu'il le déplia devant moi pour me saluer. Il n'y avait pas grand-chose sur son bureau, un calendrier jauni, quelques feuilles de papier et une machine à écrire recouverte d'un morceau de pagne pour tenir à distance la poussière remuante de la rue. Cheikh Amour m'expliqua que son travail consistait à suivre un projet d'alphabétisation en langue makoua dans les écoles maternelles. Une fois encore, je retrouvai l'humour si coutumier de cette île. Un vieil homme presque centenaire s'occupait de bambins à peine sevrés. Dans la pénombre de la pièce, ses yeux voilés par la vieillesse avaient une couleur bleutée qui lui donnait l'air absent. Pourtant, le vieux Cheikh n'avait pas besoin de lunettes, ni pour lire ni pour écrire, et sa vivacité d'esprit m'avait immédiatement frappée. Il avait suffi que je me présente et lui décline ma nationalité pour qu'il me sourie avec malice. « Mais nous sommes compatriotes », m'avait-il lancé, avant de remonter les ans pour dénouer les fils de cette fraternité mystérieuse. Merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation et puis j'espère que vous serez enchantés par l'île du Mozambique comme j'ai pu l'être pendant toutes ces années.
Merci beaucoup d'être venu à la rencontre et bravo à toi.